Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un passage de notre Bible et je vous propose que nous fassions une première lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Et nous allons tout simplement, faire la lecture de ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Verset 36, c'est bien. Alors, je répète, Jean, chapitre 18, verset 36. Alors, il s'agit de cet entretien entre Jésus et Pilate. Et voilà ce qui est dit. « Mon royaume, répond Jésus à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Voilà, question. Et puis nous allons compléter notre lecture, notre première lecture, avec un autre passage dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 24. À partir du verset 22, c'est une lecture assez originale, mais qui va nous situer dans notre propos ce soir. C'est l'histoire en fait de Paul qui comparaît devant le gouverneur. Alors Paul est accusé à tort. Enfin, il est accusé d'être, tout simplement un homme qui prêche un message dérangeant. On peut dire cela. Si on veut, on peut le proposer de cette manière. Alors, Actes chapitre 24, verset 22. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, c'est-à-dire le christianisme naissant, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêcha aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Ils l'entendirent sur la foi en Christ, mais comme Paul discutait sur la justice, sur la tempérance, sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en aurai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoya-t-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Alors quel rapport il peut y avoir entre cette première et cette seconde lecture? C'est un tribunal dans les deux cas. Le premier, c'est Jésus qui comparaît devant Pilate. Les questions sont posées, Jésus répond. Et Jésus dira la vérité. Et nous voyons que Pilate va bien entendre cela. Il est proconsul, c'est un homme, un magistrat de la justice impériale de Rome. Et il connaît bien tout le fonctionnement et le mécanisme. Alors, c'est pas qu'il n'a pas compris, il a très bien compris. Et puis, pour feindre finalement de ne pas avoir saisi ce que Jésus lui dit, quand Jésus lui dira « Mais Voilà la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Toi, Pilate, même si tu es un grand homme élevé en dignité, avec un pouvoir considérable de vie et de mort, moi, je voudrais quand même te dire que, eh bien, si tu veux véritablement croire à cette vérité, tu seras sauvé. Et Pilate, pour esquiver naturellement cette interpellation, dira, mais qu'est-ce que la vérité ? Voilà, qu'est-ce que la vérité ? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu comme ça, parce que la vérité, ça dérange. La vérité, ça embarrasse. Ça pose des problèmes. Ça pose de gros problèmes parce que, bon, on veut bien de la vérité quand ça va dans notre sens, quand ça peut servir notre réputation ou nos intérêts. Mais la vérité, c'est autre chose. Parce que elle implique, dans bien des cas, de devoir changer d'avis et qui plus est, changer de vie. Parce que, à partir du moment où on est convaincu de ce qu'est la vérité, et particulièrement, il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 36. Elle peut se décliner sous différentes façons, mais la vérité restera toujours la vérité, et elle peut véritablement, eh bien, que nous soyons un grand ou un petit, qui que nous soyons, eh bien, elle s'impose à nous la vérité. Alors nous, on la prend ou on la prend pas, on l'accepte ou on la rejette. Et c'était le cas naturellement de Pilate dans la circonstance. Et pourquoi l'histoire de Félix ? Alors je voudrais vous dire quelques mots parce que Félix va se retrouver dans la même situation, non pas avec Jésus, puisque Jésus n'est plus là, mais c'est un serviteur de Christ. Il s'appelle Paul. Paul est un homme avec une grande autorité spirituelle. C'est un ancien juif, véritablement orthodoxe, zélé, qui était dans le parti d'opposition au christianisme naissant, au nom même de Jésus-Christ, et qui a fait des choses, en effet, assez marquantes, violentes même. Et puis un jour, eh bien, il a rencontré Jésus parce qu'il a entendu la vérité. Il a cru à Jésus. Et sa vie a été complètement changée. Pour lui, il n'y avait pas de moyen terme. Il a été véritablement bouleversé par une expérience qui lui est arrivée sur un fameux chemin que l'on appelle le chemin de Damas. Dieu lui a parlé, Dieu l'a illuminé. Et à ce moment-là, eh bien, il a été véritablement convaincu par cette expérience, on pourrait dire, transcendante. Et il est devenu un autre homme. D'ailleurs, il l'écrira, il le marquera en lettres de feu dans ses épîtres. Il dira, mais ce qui est important, hein, c'est d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour lui, eh bien, c'était véritablement ce qui s'était passé. Son cœur et sa vie avaient été illuminés par la vérité qui lui avait été révélée à ce moment-là. Et il était devenu d'ennemi de Jésus, il était devenu l'ami de Christ, avec une mission à la clé, qui était celle, eh bien, de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités du monde, de devenir l'apôtre des païens. Et quand on connaît la vie de Paul, cette œuvre gigantesque, marquée par des signes, des miracles, des prodiges, alors on peut dire que, véritablement, il était un grand homme de foi. Et puis, il est arrivé un moment, comme nous le voyons dans le livre des Actes, où, prêchant, proclamant, eh bien, ce Christ ressuscité, qu'il a suscité autour de lui de nombreux ennemis. Il en a toujours eu, hein. Mais là, eh bien, il s'est trouvé pris, prisonnier, et il a dû comparaître devant le gouverneur, devant le procurateur de l'époque qui s'appelait Félix. Alors, il porte Félix, c'est un beau nom. Et c'est un nom évocateur, mais qui n'était peut-être pas forcément dans son tempérament. Parce qu'on peut porter un nom qui ne nous ressemble pas, vous comprenez? Certains, on se dit, voilà, ils ont un nom ou un prénom. Voilà, c'est vraiment prédestiné, hein, sur toute la ligne, ça a été fait sur mesure pour eux. Mais Félix, ça veut dire heureux. Mais c'était pas forcément un homme heureux. Et non seulement il n'était pas heureux lui-même, mais il rendait profondément, et surtout avec le pouvoir dont il détenait, dans l'exercice de ses hautes fonctions, eh bien, il rendait les gens malheureux. C'était un persécuteur, lui aussi. Alors, il aurait pu se rencontrer avec Paul à une certaine époque, il aurait pu se donner la main d'association. Mais là, pas de chance. Enfin, heureusement. C'est qu'ils se retrouvaient chacun de leur côté. Et en ce qui concerne Félix, c'était un homme qui était parvenu à cette fonction dans l'Empire. Et il avait été affranchi par l'empereur Claude, qui régnait à Rome à l'époque, et il était réputé comme un personnage violent, intéressé et vénal. Alors quand il avait un client, excusez-moi l'expression, mais quand il avait un client, c'est ce que nous avons lu, eh bien, il faisait venir finalement Paul, si on parle de lui, assez souvent, en espérant que Paul, qui était pauvre, comme Job, lui donne quelque argent pour pouvoir faire avancer un peu la justice et faire avancer la vérité. Mais la vérité et la justice, elles n'avancent pas avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais ça, c'était sa façon de faire. Quelle justice peut-on attendre lorsque finalement, eh bien, les choses sont poussées avec quelques billets ou avec ce genre de procédé. Alors, il aimait bien voir Paul, parce qu'il se disait, ben, un jour ou un autre, il va quand même me proposer quelque chose. Moi, je travaille pas pour rien. Alors, donc on peut deviner un petit peu le côté vénal de cet homme, intéressé surtout qu'il avait une situation, il avait certainement, eh bien là, tout ce qu'il fallait de par sa fonction. Alors il était nommé à un moment donné procurateur de Judée vers l'an 53. On est dans cette pleine période là de l'évangile qui explose un peu de tous les côtés. Et puis quand je vous ai parlé de sa violence et de son agressivité, il était réputé pour avoir maté plusieurs séditions par le sang. Mais il n'y avait rien de changé avec ses prédécesseurs, parce que quand on connaît Pilate dans l'histoire, des Juifs, ils étaient tous passés par là. De toute façon, ils ne faisaient pas trop de cas de la vie des opposants ou des rebelles, enfin prétendument rebelles, de ceux dont ils occupaient le pays, les Juifs en particulier. Et ils ne regardaient pas de trop près. Quand il y avait quelques mouvements comme ça, eh bien, il envoyait ses armées, ses soldats, et puis alors comme ça, il restait plus personne sur le terrain, tout le monde était mort. C'est comme ça qu'on gagnait la paix à l'époque. C'était sa vérité à lui, vous comprenez ? La vérité du plus fort. Vous connaissez la maxime, naturellement. Et puis voilà que nous l'avons lu, il nous a dit que il s'est présenté un jour au tribunal, et puis Paul devait comparaître. Puis il nous a dit qu'il est venu avec sa femme, qui s'appelait Drusille. Alors, quelques mots, c'est un peu de l'histoire que je fais ce soir, mais ça nous replace dans le contexte parce que ça va nous montrer un petit peu le caractère et le tempérament du personnage. Alors, il était remarié avec une juive qui s'appelait Drusille, probablement une femme, dans cette campagne de Palestine. Eh bien, là, il l'avait rencontrée, c'était une juive. Mais il voulait se remarier avec elle et il l'avait obligée à se divorcer avec son mari. Il lui avait pas léché le choix, en quelque sorte. Alors, c'est un petit peu ce qui est dit de lui. On l'a lu tout à l'heure, le procurateur Félix avait une très bonne connaissance des lois juives. Oui, il connaissait bien, autant Pilate connaissait bien aussi son affaire lorsqu'il régnait à Jérusalem, lorsqu'il dominait la Judée. Et lui, de même, il avait appris, peut-être que par son épouse, il avait peut-être été initié à la religion des Juifs, je ne sais pas, enfin en tous les cas, il ne devait certainement pas être un prosélyte, mais il en connaissait quand même quelque chose. Donc il connaissait bien les lois juives, et puis la foi chrétienne. C'est pour ça que Paul l'intéressait quelque part, parce que voilà, il avait toute la tradition israélite, et puis d'un autre côté, cette émergence de ce souffle qui avait passé sur ce pays avec, nous pourrions dire, la venue de Jésus, avec tout ce que cela avait bouleversé finalement, cette nation, et puis il y avait quand même un caractère politique derrière. Imaginez-vous le christianisme quand il est arrivé, après la crucifixion de Jésus, les miracles et les prodiges. Bon, toute la nation d'Israël avait été en émoi à ce moment-là. Puis bon, il y avait quand même aussi la question qui n'avait jamais été solutionnée de la résurrection. Voilà, on met quelqu'un, on le met à mort, on l'enferme dans un tombeau, et puis après il disparaît. Et puis il fait encore 10 fois plus ou 100 fois plus de disciples après sa résurrection. Ça, c'est un problème politique. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et un engouement grandissant, parce que finalement, au lieu d'arrêter ce mouvement religieux, eh bien, il a pris de l'ampleur. Il a débordé dans toutes les provinces. Il déborde finalement partout. Alors, c'est vrai que pour un gouverneur, on se pose des questions. Mais il connaissait bien tout ça. Je pense qu'il a été très impressionné par le message de Paul. Si vous voulez le lire, c'est précisément le paragraphe qui est auparavant. Et Paul a parlé, il a raconté l'histoire. Il a dit beaucoup de choses sur Jésus, et etc. Et je pense que là, on peut s'imaginer que Félix devait certainement écouter avec beaucoup d'attention. Il ne devait plus parler, mais il devait écouter. Puis peut-être avec un certain intérêt. Ça nous rappelle un certain Hérode qui s'intéressait particulièrement à un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Vous savez ? Connaissez l'histoire ? Bon, ça a mal fini pour Jean-Baptiste, hein, parce que finalement, Hérode, à un moment donné, sous pression de tout son environnement, et particulièrement cette femme qui était sa concubine, eh bien, a dit, écoute, hein, arrête avec tes histoires, hein, ça te tourne la tête, hein, tu risques de te convertir, alors tu sais, si tu veux plus entendre parler de Jean-Baptiste, tu lui coupes la tête comme s'il ne parlera plus. C'est ce qui s'est passé, hein, d'ailleurs. Et pourtant, il nous a dit qu'il recevait Jean-Baptiste avec beaucoup de plaisir. Ouais. Vous savez, les gens qui sont pas toujours très affermis, qui disent oui un jour, un autre jour, ils sont dans le contraire, etc. Bah, ça, c'était Hérode. C'était probablement Pilate. Et puis, moi, je pense que derrière, avec un intérêt certainement financier, ça devait être aussi Félix. Alors, on a un peu ce caractère de gens qui sont assis entre deux chaises. Et pourtant, la Bible est claire, elle nous dit que Dieu hait les indécis. La vérité, c'est la vérité ou ça ne l'est pas. Si véritablement nous sommes convaincus qu'elle est la vérité, alors à ce moment-là, on l'embrasse. Et puis, on va aller dans ce sens. Mais c'est toujours le problème de cette indécision chez les hommes. Et nous voyons que ce soit Hérode, que ce soit Pilate ou que ce soit Félix, même s'ils ont été intéressés par le discours chrétien, le royaume de Dieu, dont le roi c'est Jésus-Christ, ben, ils n'ont rien changé à leur vie. Ils n'ont rien changé à leur vie parce qu'il y a un mot que j'aimerais, qui va servir de, en quelque sorte, de pôle, d'appui, de fixateur dans notre message que nous allons partager. Alors je relis, quelques jours après, Philippe vient avec vin avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Ils l'entendirent, écoutez bien, ils l'entendirent sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et surtout sur le jugement à venir, alors là c'était un sujet qu'il ne fallait peut-être pas aborder parce que Paul ça faisait partie finalement eh bien, de tout ce qu'il avait à dire, il nous est dit que Félix, effrayé en entendant ce qu'il a entendu, pourtant c'était certainement pas un homme à avoir peur ou avoir des craintes, quand on est à la place qu'il occupait, pouvait toujours se dire, dis donc, ils m'en font un peu plus que ça. Mais le discours de Paul l'a certainement ébranlé, et il nous est simplement dit qu'il a été effrayé, et il a répondu ceci, et c'est sur cette question de réponse, il dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Ah, ça c'est intéressant. Quand j'en trouverai l'occasion, alors à ce moment-là, on reprendra notre petite conversation. Pour l'instant, ça me dérange. Pour l'instant, ça me gêne. Je veux prendre le temps de penser à ce que tu me dis, mais quand j'en trouverai l'occasion, si l'occasion se présente, si Dieu, j'extrapole, mais si Dieu me donne l'occasion encore, ou une opportunité pour que nous puissions continuer à ce que toi tu me parles et que moi j'écoute. Voilà. Parce que tout repose sur le temps et les circonstances. Et c'est quand même très important parce que jusqu'alors, Félix n'avait vraiment pas pris de décision. Et il n'avait certainement pas l'intention d'en prendre. Comme il y a beaucoup de gens dans notre société ou dans notre monde, d'hier ou d'aujourd'hui, parce que ça fait partie de la nature humaine, c'est-à-dire c'est toujours repoussé au lendemain. Vous connaissez ce qu'on peut faire la veille. Parce que on se dit, bien oui, c'est vrai, mais, et il y a toujours naturellement, et bien là, ces points de suspension, parce que quand on a bien compris ce qu'est la vérité, quand on a bien entendu l'appel de Dieu dans nos cœurs et dans nos consciences, ben on n'en reste pas là. La vie chrétienne n'est pas une option pour l'homme, qui viendrait parmi d'autres, finalement, autre chose dans l'existence humaine, viendrait à côté d'autre chose. Non, ce n'est pas une option, la vie chrétienne, c'est essentiel. La foi qui sauve, c'est primordial. C'est à lui donner la prééminence dans notre vie. C'est pas quelque chose qui peut être, bon, voilà, on a ça en plus, ça fait bien, ça peut être, eh bien, une bonne figure de moralité, par exemple. Et puis, une tranquillisation de la conscience. Ça peut être aussi ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, il va lui répondre, mais quand j'en trouverai l'occasion, eh bien, je te ferai revenir, et puis, on verra ensuite. Et vous remarquerez que c'est une occasion sans suite. En ce qui concerne Félix, puisque 2 ans s'écoulèrent ainsi, vous rendez compte, en 2 ans, hein. Parce que Paul est en prison pendant ce temps-là, hein. Imaginez-vous, hein, sans jugement. Il est en, comment on peut dire, en garde à vue prolongée. Enfin, en principe, c'est un peu plus court aujourd'hui, hein. Mais avant que le jugement se fasse, eh bien, il attend dans une geôle infecte que les choses avancent. Alors 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et puis voilà que dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. C'est pas drôle, hein. Quand vous êtes là injustement accusé et que vous attendez qu'il y ait un petit soupçon, un petit souffle qui fasse avancer les choses en faveur de votre innocence, mais là, rien ne bouge. C'est comme ça. Rien ne bouge. C'était voulu, hein, tout simplement. C'était voulu. Alors, des occasions, il y en a eu, hein, pendant toute cette période. Que Festus, il avait juste à pousser un petit peu et de dire, écoute, hein, j'ai compris, hein, ton engagement pour ta foi dans ce prétendu sauveur du monde que tu appelles Jésus-Christ, bon, c'est pas une affaire d'État. C'est pas quelque chose qui menace l'Empire, c'est pas une affaire politique, c'est pas ceci et cela, c'est simplement, eh bien là, une dissidence avec la foi de tes pères, hein, etc., etc. Rien ne bouge, ça reste comme ça. Moi, je vois qu'il y en a eu un autre aussi qui a eu une occasion extraordinaire, pas pendant 2 ans, mais pendant 3 ans, c'était Judas. Vous vous rendez compte que Judas a été choisi à la première heure par Jésus, et que dans le groupe, il faisait partie des premiers, hein. Et il a vu, il a entendu, il a assisté à tous les discours, hein, extraordinaires et merveilleux de Jésus. Il était certainement dans la barque, il était au moment de la résurrection de Lazare, en tous les cas, il devait pas être très loin. Et puis dans bien d'autres situations, comme ça, que l'évangile nous rapporte, hein, jusqu'au dernier moment, il était là, Judas. Est-ce que ça changeait quelque chose? C'est terrible, hein. Vous avez remarqué, dans tous les hommes que je suis en train de vous citer, il y a quand même pas mal de, excusez-moi, mais il y a quand même pas mal de d'échecs. C'est triste, hein. Et je crois que le monde doit être ainsi fait également aujourd'hui, où Jésus avait raison de dire, hein, ne crains point, petit troupeau, parce qu'il a plu à votre père de vous donner le royaume. Donc un petit troupeau, c'est pas grand-chose, hein, à côté de la masse, hein, et de la multitude des hommes et des femmes qui sont déjà passés sur la terre et qui sont encore nos contemporains aujourd'hui, qui sont nos contemporains, et qui ont été confrontés avec la vérité de Jésus-Christ, avec l'Évangile. Alors, occasion sans suite, Judas voit que ça s'est mal terminé pour lui, parce que s'il avait saisi le pardon, il pouvait être sauvé, mais il n'a pas cru qu'il pouvait être pardonné. Donc, il s'est mis à mort. Oh, puis il y en a d'autres dans la Bible comme ça, mais je ne veux pas trop m'étendre sur le... C'est ce refus de s'engager, vous comprenez ? Quand il est encore temps. Et pourtant, il y a une voix qui résonne à travers, en écho, de siècle en siècle, à travers les pages de la Bible. C'est cette parole de Dieu donnée au prophète Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ouais. Connaissez ça, hein? C'est un texte clé que nous avons. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce n'est pas un jugement. C'est simplement un avertissement, une préparation pour que quelque part, eh bien, véritablement, les choses soient faites selon la volonté de Dieu. Et quand on sait que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, alors à ce moment-là, on comprend que toute la bienveillance et la compassion de Dieu vis-à-vis des hommes, naturellement. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour refaire le monde? Qu'est-ce que l'on peut faire pour changer les cœurs, changer les mentalités, changer les vies? J'aimerais simplement faire la lecture d'une histoire qui est apparue dans un journal et qui nous montre bien que quand l'occasion et quand l'opportunité de Dieu est là, quand un homme, une femme, un jeune homme ou une jeune fille ou une personne âgée est appelé par le Seigneur à un moment donné, au bon endroit, au bon moment, alors je pense qu'il est urgent que nous comprenions que c'est ce moment-là, en sachant que quand on sait, quand on connaît la grâce que manifeste Dieu et qu'il fait toutes choses belles en son temps, Faut pas ni avant, ni après, mais c'est le moment là où il convient que nous réfléchissions. Depuis un certain temps, et je lis simplement le texte, hein, ça va vous situer un peu dans cette affaire. Depuis toujours, les hommes discutent pour refaire le monde. Vous savez, hein, les adolescents, surtout en particulier, quand ils sont au collège ou au lycée, ils se retrouvent ensemble en disant « Mais si j'étais, si je faisais, et ceci, et cela !» Après, ça se passe parce qu'on s'aperçoit qu'on se fatigue avec tout ça. Puis ceux qui étaient avant nous l'ont fait, ils l'ont défait, ils n'ont jamais reconstruit quoi que ce soit. Ça, c'est le monde. Et les idées ne manquent pas, naturellement. Hein. On peut toujours avoir des idées, et le monde est très fort pour avoir des idées, des idéologies, des partis, et quelquefois aussi des partis pris. Hein. Hein, c'est ma façon de penser qui est la meilleure, parce que, bon, ce que les autres pensent, hein, naturellement, etc. Alors, on a des idées, mais il y a quelquefois un problème. Pour les idées, il faut des hommes, parce qu'autrement, ça ne se concrétise pas. Mais où trouver des hommes neufs pour faire un monde nouveau? Parce que la question est là. Sur le plan technologique, modernité, découverte d'avant-garde, ça c'est sûr qu'à ce niveau-là, on est très performant. Mais est-ce qu'avec ça, est-ce que depuis ces années qui sont les nôtres, qui ont été marquées par des aventures, des propulsions en avant formidables, le monde a changé, le cœur de l'homme a changé moralement. On s'aperçoit que c'est tout à fait à l'inverse de ce mouvement. Les hommes sont devenus de plus en plus égoïstes, amis de l'argent et puis toutes sortes de choses. Alors, un monde qui pourrait peut-être présenter aujourd'hui un visage sans agressivité, sans attentat, sans viol, sans violence, où on ne verrait plus des enfants de 10 ans avec un fusil à la main, comme ça se passe dans certains pays, où il n'y aurait plus de haine, où il n'y aurait plus de jalousie, il n'y aurait plus de rancune, où trouver des hommes et des femmes pour faire un monde autrement. Eh oui. Ah, mais c'est peut-être à mettre en association avec la pensée que Félix, pour se débarrasser de Paul, voulait dire « Mais quand j'en trouverai l'occasion, je te dirai. » Ben oui, mais ça fait 2000 ans que les choses ont été dites. Hein. Puis finalement, on a bien eu des occasions de faire quelque chose. Mais on n'en trouve pas l'occasion parce qu'on ne veut pas s'engager comme il convient de s'engager. Alors, on a des idées. Et pour peut-être un peu concrétiser tout cela, je voudrais vous raconter un événement qui s'est passé dans un village. Et c'était un après-midi, en début d'après-midi, et c'était un jour peut-être, à la belle saison estivale, hein, il faisait très beau et très calme. Et là, à ce moment-là, les cloches de l'église ont retenti pour rassembler la population. Et on célébrait les obsèques d'un jeune homme qui s'était tué dans un accident de la route. Voilà. Une famille pleurait. Le village entier était là, des jeunes, des moins jeunes, enfin tout le monde. Et l'église était pleine, comme en la circonstance. Avec, naturellement, eh bien, toute cette population éplorée, parce que, visiblement, c'était un garçon qui était bien connu, et puis voilà, il venait de perdre la vie. Tout le monde était dans le recueillement, le calme, le silence, c'est comme si le monde était suspendu à ce moment-là. Alors, naturellement, eh bien, le prêtre a fait son homélie, et puis tout ce qui va avec. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait, comme si tout s'était arrêté, comme s'il y avait quelque chose de particulier dans l'événement. Parce que c'est terrible. Comprenez, là, il y a le respect qui s'impose à ce moment-là. Et on sentait tout ce monde qui était touché. Ah, les gens ne pensaient pas à autre chose. Ils pensaient à ce qu'ils vivaient à ce moment-là. À l'histoire de ce garçon qu'ils avaient connu, qu'ils avaient vu. Ils pensaient peut-être à cette histoire qui s'est arrêtée brutalement. Et ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait pu devenir en tant qu'homme, mais sa vie était fauchée. Alors ça laisse réfléchir, vous comprenez? Et on sentait que les cœurs n'étaient pas les cœurs de tous les jours, vous comprenez? Il y a des événements dans la vie, comme celui-ci, qui marquent, qui arrêtent. Mais combien de temps ça va s'arrêter? Combien de temps les gens vont être sérieux? Combien de temps ils vont retenir leur souffle pour réfléchir un peu? Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Hein. Alors, ce moment-là, cet instant même, c'était des cœurs qui entendaient des choses que l'on n'entend pas d'ordinaire. Et quand bien même Si personne n'avait parlé, outre l'officiant, eh bien, il y avait quand même des voix qui parlaient à ce moment-là dans la conscience et dans le cœur de chacun, forcément. Des cœurs qui étaient touchés par ce qui, normalement, nous laisse complètement indifférents quand il s'agit de le prochain, quand il s'agit de celui qui est dans le lointain, de tous les événements qui se produisent autour de nous par milliers et dans le monde entier, parce que en fait de catastrophe, je peux vous dire, heureusement qu'on n'est pas au courant de tout. Même si on est branché sur France Info 24 heures sur 24, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Hein. Mais néanmoins, alors, on peut s'imaginer que si à cet instant, on avait saisi ces hommes et ces femmes réunis dans ce lieu de prière, avec le cœur qu'ils avaient à ce moment-là, permettez-moi de dire qu'on aurait pu faire avec eux un monde neuf. Ils étaient prêts à un monde neuf. Parce que la profondeur de la réflexion, la tristesse aidant, le passé, le présent vécu, et puis les grandes questions d'incertitude sur leur avenir devant un fait où on est fauché en un instant, hein, alors on aurait pu faire un monde neuf parce que les gens se pouvaient se prêter à quelque chose. Au moins, on devenait sérieux. Du moins un instant. Mais vous savez, les choses passent très vite. Je crois que c'est le premier anniversaire ou le deuxième anniversaire de la catastrophe du Japon, là, aujourd'hui. Hein. Alors, on va le commémorer, naturellement. Qui se souvient qu'il y a 3 ans, eh bien, c'était Haïti qui était dévasté. 200 000 morts. Et puis, qui se souvient qu'il y a 15 jours, il y avait encore une catastrophe, et ceci et cela. Mais cette bite évacuée. Sur le moment, les gens, saisis par les images. D'accord. Mais après, ça s'en va très vite. On vous dira, mais il y en a tous les jours. Alors, voilà. Il y a une image que je voudrais compléter avec celle du maréchal Ferrand. Alors, on n'en voit plus beaucoup, hein, ils se font rares aujourd'hui, hein, parce que on met pas des fers aux voitures, on met des pneus. Hein. Alors, c'est sûr que ça limite un petit peu le métier. Hein. Et vous savez que le maréchal Ferrand sort le fer du brasier pour le porter rouge, incandescent sur l'enclume. Et il va très vite, comme le dit le proverbe, il faut battre le fer quand il est chaud, vous comprenez ? Voilà, hein, on connaît ça. Et le temps est court, durant lequel on peut façonner le fer et lui donner une forme nouvelle. Parce qu'il est chaud, parce qu'il est prêt. Et là, avec un morceau de ferraille, hein, c'est très résistant, c'est très fort. Vous pouvez toujours la tordre dans tous les sens, vous n'y arriverez pas. Hein. Mais par contre, quand il est chaud, vous pouvez en faire une œuvre d'art. Vous pouvez le transformer, vous pouvez en faire un fer à cheval ou autre chose, naturellement. Mais il faut le faire pendant qu'il est chaud. Et le temps est court durant lequel notre cœur s'ouvre. Comprenez ? Une petite entrevue. C'est comme quand le soleil apparaît derrière une journée sombre et que là, il y a une petite percée dans les nuages. Ça va très vite. On se dit, ça y est, c'est bien, la lumière arrive. Et nous voyons que on peut faire beaucoup de choses nouvelles avec un fer, quand il est chaud, hein, naturellement. Et quelques instants après quoi ? Tout le monde est rentré à la maison, après je reviens à la cérémonie naturellement, et tout rentre dans l'ordre. Parce que qu'est-ce qu'on entend par ordre ? Un ordre ancien dans lequel on est confortablement assis, on se dit pourvu que rien ne change parce qu'on n'aime pas être dérangé dans nos habitudes, ou alors à ce moment-là, eh bien, un ordre nouveau peut venir dans la vie d'un homme, le transformer et le changer en faire une nouvelle créature. Ouais. Vous savez, quand un homme se convertit, nous rentrons dans un nouvel ordre, ou un ordre nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ouais. Il y a pour chacun d'entre nous un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. C'est formidable, hein? C'est comme ça que on peut voir les choses. Et entre-temps, il y a eu ce que l'on appelle un saisissement de l'Esprit de Dieu au contact de sa parole qui a suscité de la foi dans nos cœurs, qui nous a amené à la repentance, à la conversion, c'est-à-dire à une appartenance et une décision d'appartenir à Jésus-Christ. Et puis à une nouvelle naissance. Et nous avons été pris au moment où le fer était chaud. Parce que peut-être qu'après, on ne serait jamais converti. On n'était pas prêt avant. On n'aurait peut-être pas été prêt après. Mais il y a eu des circonstances providentielles de Dieu où Dieu m'a dit personnellement. c'est le moment ou jamais, hein. Ouais. Parce qu'il y avait tout une conjonction de circonstances dans votre vie ou dans ma vie où il n'y avait qu'une seule chose. C'était de répondre à l'appel de Dieu. Moi, je ne sais pas comment ça serait passé plus tard. Mais je sais que dans cette période, il y a eu quand même quelque chose de particulier qui m'a amené à prendre une décision qui a finalement, eh bien, m'a emmené, dirigé, orienté ma vie et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je ne peux pas dire ce que j'aurais été autrement parce que je ne l'ai pas vécu, mais je sais ce que j'ai vécu. Et chacun d'entre nous, nous pouvons raconter notre histoire naturellement. Alors, le fer, lorsqu'il commence à refroidir, il va rentrer dans l'ordre, il va devenir dur. Le cœur de tous ces villageois, après la cérémonie, vont peut-être avoir encore quelques émotions, mais tout va rentrer dans l'ordre, et puis voilà, ce garçon disparaîtra dans le souvenir et dans l'histoire. C'est dommage, naturellement. Alors on repart, en emportant dans nos cœurs, eh bien beaucoup de choses, mais des cœurs qui sont redevenus froids, qui sont redevenus insensibles très souvent, inaccessibles, voire même quelquefois incrédules. Et ça, c'est quand même dommage. C'est quand même incroyable que la routine, si on peut le dire aussi, la routine de la vie, cette routine où normalement tout va bien. Et quand on entend tous les gens se plaindre tous les jours, on ne peut pas dire que tout va bien. Mais pour eux, ça va bien, donc c'est bien comme ça. Il ne faut surtout rien changer. Moi, je me pose souvent la question, je me dis, mais comment font les gens pour vivre dans un monde tel qu'il est? Il y a du malheur. Ils triment, ils pleurent, ils connaissent toutes sortes de choses, et je me dis, mais ils veulent rester dans cet état? Seigneur, comment peut-on concevoir une vie comme cela, sans la paix, sans la joie, sans le bonheur, sans perspective, sans espérance? Je me dis, mais c'est terrible. Et on dit, mais tout va bien, parce que finalement, le fer a refroidi, puis il a repris un peu sa courbe. Mais qu'est-ce que l'on va faire avec un fer comme ça? On ne pourra rien changer, hein, naturellement. Vous savez combien il faut souvent que la souffrance nous visite pour nous amener un petit peu à être incandescent et à être chaud au niveau de notre cœur, à réfléchir au niveau de notre pensée et qui nous invite à porter un instant notre cœur au rouge pour nous amener tout simplement, pour nous arracher cette froideur, cette indifférence, la dureté du fer qu'on ne peut plus façonner. Ça, c'est l'histoire, vous comprenez? C'est l'histoire de l'homme. Et quand on regarde notre texte, refaire le monde, alors à ce moment-là, on peut comprendre ce que pouvait dire Félix, mais quand j'en aurai l'occasion, eh bien, que Dieu soit béni quand il donne l'occasion à des hommes, lorsqu'ils sont chauds, lorsqu'ils sont prêts, lorsqu'ils sont dans les conditions pour répondre à son appel, qu'ils puissent le faire. Si aujourd'hui, nous dit la Bible, si vous entendez sa voix, qu'est-ce qu'il est dit? N'endurcissez pas vos cœurs. Parce que demain, nous ne savons pas ce que ce sera. C'est le chapitre 12 du livre de l'Ecclésiaste. Jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, parce que tu ne sais pas ce que sera demain. En vieillissant, quelle sera ta vie? Et où cette vie de souffrance ou autre chose, où cette vie de plaisir va-t-elle t'amener, loin de Dieu? Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je vais vous raconter encore une autre histoire, si vous voulez, pour illustrer ce propos. Vous l'avez déjà entendu, mais peut-être que... Bon, c'est toujours très bien. Les rois ont des bouffons à leur service. Alors je ne sais pas si les présidents de la République, c'est pareil. Je retire ce que j'ai dit. Enfin, c'était comme ça, ils avaient des bouffons, tout simplement. Un jour... Le roi a appelé son bouffon et il lui a remis un sceptre en or. Et en lui recommandant de le garder jusqu'à ce que le bouffon, mais c'est un bouffon, on comprend, hein, ça c'est au niveau de sa pensée, c'est voilà, trouve et le remette à plus fou que lui. Alors, bon, quelquefois ça n'est peut-être pas trop compliqué, mais si c'est un bon bouffon fou, hein, et bien fou, alors fallait qu'il trouve quelqu'un qui soit plus fou que lui, et il lui remettrait naturellement ce sceptre en or. Alors ça, c'est un petit peu pour l'histoire. Et quelques temps après, le roi fut malade. comme ça peut arriver à tout un chacun, et il fut malade à mourir. Alors, il appela son bouffon et lui dit « Je pars pour un grand voyage. » Alors le roi savait, il se faisait pas trop d'illusions naturellement où il allait. Et le bouffon lui dit tout simplement « Mais au maître ou au roi, majesté, mais quand reviendras-tu ? » Et le roi lui répond « Je ne reviendrai jamais, parce que je vais partir. » Voilà. Et son bouffon lui a dit à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'était pas si fou, le bouffon, il lui a dit tout simplement « Mais, majesté, quel préparatif as-tu fait ? Parce que tu me dis que tu vas t'en aller, que tu vas pas revenir. Qu'est-ce que tu as préparé justement ? Qu'est-ce que tu as préparé avec toi ?» Et le roi lui répond « Mais j'ai rien préparé, j'ai rien fait du tout. » Et le bouffon de lui répliquer « Mais alors tu pars donc pour toujours et tu n'as fait aucune préparation. T'as rien préparé. Tu t'en vas, toi le roi, comme ça. » Et vous savez ce qu'a fait le bouffon ? Il lui a dit « Tiens mon roi, prends le sceptre d'or que tu m'avais confié il y a un certain temps, car j'ai trouvé plus fou que moi. » C'est vraiment l'histoire du monde, hein. Vous comprenez? Plus fou, celui qui ne se prépare pas pour son éternité. Ouais. Parce que quand on part en voyage, moi demain je vais faire un voyage en Bretagne. Je vais aller visiter les côtes du Nord, d'Armor, pardon. Parce qu'il faut vous dire ça, il paraît que c'est terrible. Bon. Je vais préparer quand même une petite valise pour prendre grand chose. Quoique, avec mon épouse, on sait jamais. Mais bon. Vous savez comment sont les dames. Mais toujours est-il que je prépare une petite valise. Quand on part un petit peu plus loin, quand on part pendant 8 jours, 8, 15 jours et tout ça, on prépare davantage de bagages. C'est moi qui les porte, hein. Alors en principe, c'est une hantise. Mais toujours est-il que, voilà. Mais quand il s'agit du voyage de la vie, quand il s'agit de ce départ pour l'éternité, alors, il n'est pas question d'emmener des valises, hein, parce que ça sert à rien du tout. Hein. De l'autre côté, on n'aura absolument rien besoin de ce qui nous sert aujourd'hui, ici-bas, sur cette terre. Mais il y a quelque chose que nous pouvons préparer dès les premiers jours de notre vie. Ou lorsque l'occasion nous a été donnée, et quand il nous est dit « Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », alors à ce moment-là, il faut commencer à préparer à mettre nos préparatifs en ordre. Et ainsi, mais ça, c'est pas extérieur, c'est quelque chose à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies, profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, ça c'est quelque chose d'important, et qui se prépare aujourd'hui ? Qui prend en compte que le message de l'Évangile, c'est un petit peu la liste des préparatifs pour devenir les citoyens d'un autre royaume, mais qui ne sera plus terrestre, mais qui sera céleste ? Avec toutes les conditions morales, toutes les conditions spirituelles, pour pouvoir avoir une maison, une demeure, un palais, un royaume de l'autre côté. Alors à ce moment-là, je peux vous dire que ça change tout, hein ? Si nous avons habité dans une mansarde ou une cabane sur la terre, de l'autre côté, nous rentrerons dans les palais d'ivoire célestes. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Et quelle maison, hein ? Alors, on se réjouit, on se prépare, on aspire, même si c'est pas encore le temps de partir, fort heureusement, mais on se prépare. Et le bouffon va dire au roi, mais j'ai trouvé encore plus fou que moi. Alors, je te rends ton sceptre. Naturellement. Je termine. Je termine par cette parole qui nous est laissée dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 66 à 68, voilà ce qu'il nous est dit. C'est une rencontre. Dès ce moment, verset 66, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec Jésus. Parce que Jésus avait dit des choses qui les avaient dérangés. En fait, Jésus avait dit la vérité. Mais des vérités qu'ils avaient du mal à entendre. Jésus donc a dit aux 12, ceux qui avaient été les fidèles des fidèles depuis le premier jour. Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ? Et Simon-Pierre lui répondit, alors là c'est beau. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vérité. Dans ces paroles, j'ai tout ce qui m'est nécessaire pour me préparer à l'éternité. Nous sommes des êtres faits pour l'éternité. L'éternité de Dieu, l'éternité dans le bonheur de Dieu. Dans une dimension que l'on ne peut pas soupçonner aujourd'hui. Et je ne me préparerai pas. Quand j'en aurai l'occasion, vais-je dire à Dieu, alors à ce moment-là, peut-être que je prendrai une petite valisette avec un minimum de nécessaire pour le voyage. Le monde est fou. Nous ne sommes pas des êtres qui sommes voués à disparaître, mais nous sommes des hommes, des êtres, des créatures de Dieu, où nous avons une destination éternelle, une destination d'éternité. Et ça, c'est le désir de Dieu. À quel autre irions-nous qu'à toi ? Seigneur, mais c'est toi ? Il n'y a que toi ? David pouvait le dire, mais Seigneur, tu es mon souverain bien ? Alors je finis. À quelle voix, VOX ? Alors quelle voix allons-nous entendre ? Oui, une voix me parle et me demande, me dit la vérité, me parle de ma vie, présente, passée, mais également à venir. Et quelle voix, VOIE, allons-nous décider de suivre ? Il y a un homonyme là, hein, mais néanmoins avec un sens qui se rejoint dans une décision que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et n'allons pas dire au Seigneur, pour le moment retire-toi, comme Félix l'a dit à Paul, pour le moment retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous prier. Paul le dira avec des mots pathétiques. Je vous conjure de faire la paix et de vous réconcilier avec Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. C'est une belle histoire, l'histoire de Félix, hein. Alors je sais pas s'il a été heureux, mais toujours est-il qu'on peut être heureux et on peut porter vraiment le nom de Félix. Ça a une connotation un petit peu féline, hein. Mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que pour vraiment avoir ce bonheur-là, eh bien, on peut pas dire à Dieu, retire-toi. Et quand j'en aurai l'occasion, eh bien, non, c'est Dieu qui vient vers nous et qui, lui, nous demande. Eh bien, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que je t'ai exaucé. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons prier maintenant quelques instants, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, Jésus, ta parole se fait entendre, elle proclame en effet la vérité. Nous voulons croire, Père éternel, comme Jésus, puisqu'il est le maître, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le souverain dans le ciel et sur la terre, a pu dire, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors Seigneur, que ce soit un Pilate ou que ce soit un Félix, eh bien nous ne voulons pas dire, mais qu'est-ce que la vérité ? Ou tout simplement repousser la vérité en disant que j'en aurai l'occasion, eh bien nous en reparlerons. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, et surtout pas te dire, retire-toi, mais Seigneur, je veux te demander, nous te demandons ce soir, approche-toi de moi, Seigneur, et sauve-moi. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.